France Inter, franceinter.com.
J'ai vu beaucoup de chevaliers, rois et princes, mais je n'en vis jamais d'aussi belle allure. Froissart. Mille ans d'histoire. C'était au Moyen Âge, à l'époque où la France n'était qu'une multitude de principautés, plus ou moins dépendantes du pouvoir royal. La Bourgogne, la Bretagne, la Normandie, l'Armagnac, le Poitou, la Provence, l'Aquitaine ou Toulouse, dont les ducs, les comtes et les vicomtes étaient vassaux du roi de France. En 1331, un des plus singuliers d'entre eux allait naître quelque part au pied des Pyrénées. Le futur comte de Foix, Gaston III, plus connu sous le nom de Phébus, le surnom du dieu du soleil, Apollon. Mais en cette année 1331, personne ne pouvait imaginer que le prince qui allait naître à la veille de la guerre de Cent Ans allait faire des Pyrénées une des régions les plus paisibles et les plus riches de France.
Surprenant, surprenant. Beaucoup d'orages, des orages épouvantables. Mais ils sont fixés au nord. Le midi reste pur. Tiens. Un nouvel astre se lève sur les Pyrénées. C'est même un soleil. C'est tout ce que je vois.
Un soleil.
Ne vous réjouissez pas trop vite. Il ne se produira qu'à la deuxième génération.
Un soleil.
Phébus se lève sur le monde, tourne au-dessous de l'orbite solaire et brûle d'un puissant éclat. Claudine Payès, bonjour.
Bonjour.
C'était un chant du XIVe siècle de la cour de Gaston Phébus auquel vous venez de consacrer une biographie publiée chez Perrin. L'histoire d'un prince qui était à la fois un diplomate, un soldat, un mécène, un lettré, nous le verrons, mais qu'on a un peu oublié aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'a régné que sur une toute petite partie de la France, au sud de la France.
Oui, bien sûr, les états de Gaston Phébus n'étaient pas très étendus. C'était en gros deux petits pays pyrénéens, le Béarn à l'ouest, le pays de Foix à l'est, qui n'étaient même pas reliés entre eux. Ce sont deux petits pays, par contre, avec un atout, c'est qu'ils étaient frontaliers, ce qui fait qu'ils étaient maîtres des passages, des grands passages vers l'Espagne, vers l'Aragon, vers la Castille, vers la Navarre, ce qui leur donne quand même une puissance économique intéressante.
Alors, deux pays, vous le rappelez. D'abord, il y a le comté de Foix, il est comte de Foix, Gaston Phébus, pour lequel il était vassal du roi de France, hein, Philippe VI.
Voilà, pour le comté de Foix, il est vassal du roi de France, ça c'est indéniable. Par contre, pour le Béarn, les choses sont plus compliquées. Le Béarn était une vicomté qui dépendait du duché d'Aquitaine. Il se trouve qu'au XIVe siècle, le duc d'Aquitaine, c'est le roi d'Angleterre. Donc, il est vassal du roi d'Angleterre, même si le roi d'Angleterre est lui-même vassal du roi de France pour l'Aquitaine.
Alors, les choses sont déjà compliquées, mais elles se compliquent encore plus lorsque se déclenche, 6 ans, je crois, après la naissance de Gaston Phébus, la guerre de Cent Ans. Alors, c'est d'abord son père qui, en tant que comte de Foix, va la connaître, mais c'est ensuite lui, parce qu'il va régner une cinquantaine d'années quand même dans les Pyrénées, qui va connaître cette guerre de Cent Ans. Alors, pour lui, c'est un dilemme, puisqu'il est à la fois le vassal du roi de France et celui du roi d'Angleterre, et que les deux rois sont en guerre.
Bien sûr, et les deux rois l'appellent dans leurs armées. Il va refuser aux deux. Alors, son père et son grand-père avaient combattu dans les armées du roi de France. Ils avaient pris parti pour le roi de France, officiellement. Gaston Phoebus, lui, il va refuser, mais refuser avec diplomatie, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas les ponts, il retarde, il ne se présente pas, il envoie des vassaux, enfin. Mais en fait, il ne fait pas campagne, ni pour l'un, ni pour l'autre.
Il va même en profiter, au fond, pour réaliser un de ses projets, qu'il va réussir d'ailleurs. Ce qu'il veut faire, c'est d'une de ses possessions, le Béarn, un État souverain.
Voilà, ben c'est la solution, on peut dire, qu'il a trouvée pour se sortir de ce dilemme de deux suzerains. Il va dire que le Béarn ne dépend de personne. Alors, il commence à le dire au roi de France, Philippe VI. En 1347, le roi de France lui envoie un messager pour lui demander de participer à des négociations avec la Castille. Et alors là, il reçoit le messager, très bien, mais il lui dit qu'il ne peut pas lui répondre parce qu'il est en Béarn et que le Béarn, il ne le tient de nul homme. Il ne le tient que de Dieu et de nul homme au monde. Et qui lui répondra quand il sera en Pays de Foix, parce qu'en Pays de Foix, il est vassal du roi de France.
Voilà. En fait, Philippe VI, le roi de France, refuse la souveraineté du Béarn.
Moi, Gaston Phoebus, prince de Béarn, de Pau, de Sauveterre, d'Orthez, je suis le plus puissant vassal du roi de France, et je demeure son vassal, car tel est mon bon plaisir.
Sire, voici le comte de Foix, roi de Béarn.
C'est notre vassal. Le comte de Foix que nous recevons, non le roi de Béarn.
N'y voyez point là d'offense. Touches-y si tu l'oses, c'est la devise de Foix.
Touches-y si tu l'oses, on a entendu dans cet extrait de téléfilm. C'était en effet la devise de la maison de Foix et puis de Gaston Phoebus, qui disait aussi à qui voulait l'entendre et à qui refusait de reconnaître la souveraineté du Béarn, je ne le tiens que de Dieu et de mon épée, avez-vous dit. Alors effectivement, il va finir par faire admettre cette souveraineté aussi bien au roi de France qu'au roi d'Angleterre.
Oui, alors il a commencé par le roi de France, mais ça va se reproduire du côté anglais avec le prince noir. Le prince noir, c'est le duc d'Aquitaine, en fait, c'est le fils du roi d'Angleterre. Et le fils est héritier, qui n'héritera jamais parce qu'il mourra avant son père, mais enfin, bon, il est l'héritier de la couronne d'Angleterre. Et il est spécialement en charge de l'Aquitaine. Donc, en tant que duc d'Aquitaine, il va demander l'hommage à Gaston Phoebus.
En fait, Claudine Payas, ce que va faire pendant toute la guerre de Cent Ans, en tout cas celle qu'il a vécue, parce qu'il n'a vécu qu'au début de la guerre de Cent Ans, Gaston Phoebus, c'est qu'il va naviguer en fait de l'un à l'autre. Il va laisser le Béarn neutre, puis tantôt il apportera son soutien au roi de France, tantôt au roi d'Angleterre.
Oui, en fait, il a eu un génie diplomatique qui a fait qu'il a réussi à se tenir à l'écart du conflit, justement, en toujours menaçant un roi de s'allier à l'autre.
Oui. Bien qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, bien de l'un que de l'autre. Voilà. Alors, le Béarn n'est pas le seul centre d'intérêt de Gaston Phoebus. C'est là qu'il va établir sa capitale, c'est de là qu'il va gouverner ses deux États, Foix et Béarn. Mais il est beaucoup plus ambitieux que cela. Ce qu'il veut, en fait, c'est de créer au sud de la France un grand État pyrénéen. C'est ça, son grand projet.
Tout à fait. Alors, j'ai dit donc que ses États étaient séparés. Il y avait le Béarn d'un côté, le Pays de Foix de l'autre, et il n'aura de cesse de les relier. Alors, de les relier ou par des acquisitions, ou par des successions, ou par des acquisitions de vassaux, on peut dire. Il a acheté des vassaux. Pour faire en sorte de mettre la main sur le Comminges, ça, il n'y arrivera pas vraiment. Il va le contourner, le Comminges. Et sur la Bigorre, là, il y arrivera, en effet. Et vers 1380, vers la fin de sa vie, on peut dire qu'on peut aller de Orthez en Béarn à Foix, en Pays de Foix, sans quitter les états de Gaston Phoebus.
Oui, c'est important d'ailleurs, parce que ça, c'était pour lui une source de revenus importante, parce que c'était une route très importante, toutes les régions qui vont traverser les états, les possessions de Gaston Phoebus.
Bien, c'était toutes les routes qui menaient vers l'Espagne. Donc, il maîtrisait tous les passages vers l'Espagne, à partir de Toulouse, qui est quand même la grande ville du Midi de la France, la grande ville, le grand centre économique, vers les villes de Saragosse ou Barcelone même. Barcelone,
alors, il a d'autres adversaires que l'Angleterre, que la France. Il y a aussi l'Armagnac, le comté d'Armagnac, dont il va capturer d'ailleurs les plus grands seigneurs à la bataille de Launac en 1362. Et là, il va exiger une rançon énorme qui va faire de lui, au fond, un des princes les plus riches d'Europe. 730 000, je crois, florins, hein, c'était considérable. C'était un homme extrêmement riche, ou en tout cas un état extrêmement riche, l'état de Gaston Phoebus.
Voilà. Alors, c'est un personnage extraordinaire au XIVe siècle parce qu'il a su gagner beaucoup d'argent et il a su le garder. Dans une époque où les rois étaient couverts de dettes. Bon, alors la bataille de Launac a été certainement la base du fameux trésor d'Orthez, c'est-à-dire qu'il a capturé le comte d'Armagnac et tous ses alliés, comte de Comminges, seigneur d'Albret, etc. Et il leur a demandé des rançons énormes. Et ces rançons, il les a gardées, les a thésaurisées dans sa tour d'Orthez. Et il a su continuer à gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'à chaque traité, il se faisait payer.
Énormément
d'argent. Il se faisait payer pour la protection qu'il accordait aux villes. Par exemple, Toulouse, même la grande capitale du Languedoc, a payé Gaston Phoebus pour assurer sa protection. Il achetait les vassaux des autres. Donc cet argent, il l'a gagné, il a su le garder et il a su bien le dépenser, on peut dire.
Grand administrateur. Et d'ailleurs, c'est un des inventeurs, au fond, de l'impôt régulier. C'est un des premiers impôts permanents qui a été créé.
Voilà. Alors, il a inventé le fouage, qui est un impôt qui était payé par feu, c'est-à-dire par foyer. C'est un impôt sur chaque famille et qu'il a fait lever d'une façon très efficace. Il a fait dresser un état de tous les habitants de son comté, de ses états. Et on a les états nominatifs, on les a conservés. Et il a fait lever le fouage chaque année de façon très stricte, sans aucune faiblesse. Enfin, il a vraiment pressé les habitants de ses états.
Cet argent, cela dit, il s'en servait plutôt bien. Hein. C'était un bon administrateur, vous le dites. Voilà. Il construisait ou il refaisait des châteaux. Hein. Tous les châteaux de la région les plus beaux datent de cette époque, de Gaston Phoebus. Et alors, il a mis sur pied une armée extrêmement moderne. C'est une armée, je crois, une des premières à utiliser cette invention qui était le canon.
Oui, alors il a été toujours soucieux des dernières inventions, que ce soit en matière artistique, on le reverra, et en matière scientifique et matière technique. Donc, en effet, les dernières armes du temps, il les avait. Mais ce qui était aussi très, très étonnant dans son armée, c'est qu'en fait, il a réussi à lever une armée de ses propres états. C'est-à-dire que son armée était faite à partir des habitants de Foix et de Béarn, qu'il payait. Alors que les armées de ses ennemis, les armées du roi de France, les armées du roi d'Angleterre, étaient des mercenaires qui changeaient de maître au moindre retournement de situation. Les siennes, c'était les armées de son peuple. C'était son peuple en armes qu'il a opposé au roi de France, au roi d'Angleterre.
Alors, bon administrateur, bon souverain, grand chevalier, Gaston Phoebus, en revanche, n'était ni un bon mari, ni un bon père. Lorsqu'en 1380, par exemple, il allait tuer de ses propres mains son fils Yvain, qui, il est vrai, avait participé à un complot visant à tuer son père et dont la seule victime a été finalement le chien Gaston Phoebus.
Non, pas ça.
Non, pas ça. Tu rêves de tuer ton père et tu défailles à la pensée d'abattre un chien galeux.
Je ne ferai rien du tout. Je ne le supporterai pas.
J'agis tout seul. Si tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien, encore moins de régner sur un grand pays.
Mais prudence, le poison est foudroyant.
Je bois à la santé de Foix, du Béarn et à celle de leur futur successeur. Mais qu'y a-t-il ?
Je ne sais pas ce qui m'a pris, une maladresse.
C'est toi qui as fait ça ?
Non, père !
Laisse-moi châtier ce traître, ce félon ! Enfermez-le ! au cachot de la tour. Enfermez-le!
Et Gaston Phoebus allait donc enfermer son fils au château d'Orthez. Son fils Gaston, j'ai dit Yvain, il avait pas mal d'enfants, il a eu des bâtards. Mais il y a eu ce fils donc qui était l'héritier, puisqu'il était le fils de la femme légitime de Gaston Phoebus. Il a eu une vie familiale assez épouvantable, Claudine Payès.
Eh bien oui, c'est la face noire du personnage. On a vu jusqu'à présent un homme d'État brillant, etc. Mais dans sa vie personnelle, c'est le drame permanent.
D'abord, alors, un mariage très malheureux.
Voilà, un mariage malheureux, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, il a épousé, enfin, on l'a marié quand il était jeune, mais c'était classique dans cette catégorie sociale, on peut dire. On l'a marié à une princesse de Navarre, c'est un très beau mariage, c'est une cousine du roi de France. Ce mariage n'a pas été heureux. Et au lendemain de la bataille de Launac, c'est-à-dire au moment où il est auréolé de gloire, où tout lui réussit, il chasse sa femme. Et on n'aura jamais su pourquoi. Le motif officiel, c'est que la dot n'avait pas été complètement payée, mais ça peut pas être, ce n'est qu'un prétexte. Il la chasse, mais vraiment il la chasse, c'est-à-dire qu'il lui ordonne de partir sans même prendre ses affaires. Elle est partie avec juste ce qu'elle portait sur le dos. Elle est revenue à la cour de Navarre, chez son frère. Donc, inexplicable, parce que cela allait lui poser beaucoup de problèmes. Et on ne comprend pas pourquoi. Enfin, il pouvait très bien, en effet, avoir des maîtresses, etc. C'était pas
problème. C'est ce qu'on dit souvent. On dit que c'était un homme à femme.
Ben ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit, mais on n'en sait pas vraiment grand-chose là-dessus. Les femmes sont particulièrement absentes de sa cour. Alors donc, il a chassé sa femme. Il a gardé le bébé qu'elle venait d'avoir. En fait, il l'a chassé aussi au lendemain de la naissance de son enfant, dont il l'a séparé, ce qui est quand même affreux. Il a gardé l'enfant, qui était son héritier. D'abord, en chassant sa femme aussi, il s'est privé d'avoir la possibilité d'en avoir d'autres, légitimes. Mmh. Et cet enfant, apparemment, il ne l'a jamais aimé.
Oui, ben alors, et inversement, cet enfant, si il le fait enfermer, c'est que cet enfant participait à un complot contre lui. Voilà, c'est un homme qui a été victime de plusieurs complots, dont celui-là. Il faut peut-être rappeler dans quelles circonstances il s'est produit.
C'est-à-dire que bon, on pense que il n'a jamais vraiment aimé cet enfant, et peut-être cet enfant aigri a été facilement la proie de comploteurs. Alors, on dit traditionnellement, on n'est pas très sûr, que c'est le roi de Navarre, son beau-frère, donc le frère de sa femme, qui a armé le bras de cet enfant. En tout cas, il a été surpris sur le point d'empoisonner son père. Et Gaston Phoebus l'a fait arrêter, il l'a fait mettre en prison, et là, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Le poison, il faut rappeler, d'après la légende aussi, donc c'était Gaston qui devait participer à ce complot, et puis, méfiant, Gaston Phoebus, c'était pendant une fête, fait goûter la viande qu'il allait manger, et qu'on lui tend par son chien. Le chien meurt, et évidemment, là, il découvre le poteau rose. Mais alors, il le fait enfermer, et surtout, alors là, c'est un épisode tragique de sa vie, et sombre, il le tue.
Il le tue. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions, probablement une dispute dans la prison, enfin, on ne sait pas, il n'y a eu aucun témoin, et on ne connaît que le récit de Froissart, mais Froissart s'est informé plus de 10 ans après les événements et il a dit ce qu'on lui a dit. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Probablement ça, une dispute entre le père et le fils, c'est probablement involontaire, disons, c'est pas. Mais enfin, c'est vrai qu'il a tué son seul fils légitime. Alors il avait des bâtards, mais les bâtards ne pouvaient pas hériter.
C'est un personnage plein de contradictions. Le sous-titre de votre livre, Claudine Payès, sur Gaston Phoebus, c'est « Le prince et le diable ». C'est vrai qu'il est pétri de contradictions, cet homme. Il a des côtés très attachants. Nous allons voir dans quelques instants, c'est un homme de culture. Mais en même temps, c'est un homme extrêmement brutal, violent parfois.
Voilà, alors c'est un homme plein de contradictions, en effet. Et la plus grosse des contradictions, c'est en effet ce personnage de diplomate avisé, de administrateur prudent, juste. On peut dire que dans sa justice, il était assez équitable. Enfin, il n'a jamais condamné personne à mort dans son tribunal. Enfin, c'est un homme mesuré et très diplomate. Et dans sa vie privée, une violence et une irrationalité. Et quelque chose qui est sidérant. Donc il y a une face brillante et une face noire de ce personnage. Et on a l'impression que cette face noire, il l'a aussi cultivée lui-même, et l'a laissé se répandre en tout cas.
Il y a une chose aussi qui compte beaucoup, nous allons voir que ça va faire même l'objet d'un livre, c'est son intérêt pour la nature, pour la chasse, pour les animaux.
Ah, c'était un chasseur, on dit, il avait la réputation d'être le plus grand chasseur de son temps. Bon, les nobles du XIVe siècle aimaient à peu près tous la chasse, c'était inhérent à la qualité de noble, on peut dire. Mais Gaston Phoebus a mis ça à un niveau vraiment exceptionnel. Alors, il a écrit un livre de chasse qui tranche sur les autres livres de chasse qui existaient à son époque par le caractère, on peut dire, scientifique et de vérification des choses qu'il avance. On sent très bien que c'est le livre d'une expérience. Et d'un amour profond de la chasse et de la nature, en effet, dans laquelle il chassait forcément.
Un goût pour la chasse à laquelle il va se consacrer de plus en plus après le drame de la mort de son fils, qui d'ailleurs va le faire quitter Orthez pendant un certain temps, et s'en consacrer justement à ses autres passions comme la chasse et l'écriture.
Vous appartenez désormais à un passé que j'ai oublié pour me tourner vers l'avenir. Avec mes amis fidèles, mes Pyrénées, mes royaumes, mes chiens, mes sangliers et mes ours.
C'est canto qui ricanti, canto ma perie, canto be.
C'est un chant bien connu hein, dans les Pyrénées, c'est canto. Je crois que c'est il parle d'un oiseau, c'est ça ?
Il parle d'un oiseau qui chante sous la fenêtre, de l'amoureux qui est séparé de sa belle qui est de l'autre côté des montagnes.
C'était un homme de culture, d'abord qui aimait la musique et qui écrivait, parce que cette chanson est attribuée justement à Gaston Phoebus.
Bon, est attribuée à Gaston Phoebus, elle n'est probablement pas de lui, c'est une chanson du 19e siècle, mais peut-être qu'elle a été refaite au 19e siècle sur quelque chose qui aurait été de lui. Ce n'est pas impossible. Nous connaissons une chanson qu'il a rédigée, qui a été recopiée dans un recueil de manuscrits de chansons du XIVe siècle. Surtout, on sait qu'en effet, il aimait la musique et sa cour a été un des creusets de la recherche musicale du XIVe siècle. Chez lui, passaient et repassaient les plus grands musiciens d'Europe. Hein. Il avait des musiciens attitrés, salariés, on peut dire, mais il en avait d'autres qui se croisaient chez lui.
Grand mécène, mais lui-même un artiste, hein, écrivant des chansons, écrivant des livres. Alors, on a cité le livre de chasse, qui a été, je crois, un best-seller pour l'époque. Hein. Bon, il faudrait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de livres. Le livre des oraisons aussi, qu'il écrit plus tard, après la mort de son fils.
Alors, le livre des oraisons est quelque chose de très mystérieux, en fait. C'est un livre de prière. On a longtemps dit qu'il l'avait écrit après la mort de son fils. Je pense que maintenant, on a un peu revu la question. Il est probable que c'est un recueil. Enfin, on peut dire qu'il a été le... Il a réuni des prières qui n'étaient pas de lui, qui étaient écrites par d'autres, par des penseurs, des écrivains chrétiens qui l'avaient précédé. Mais il les a agencées pour en faire un livre personnel. Et c'est un livre dans lequel se cache un péché, on peut dire. On le sent au long de ses prières, où il confesse sans le confesser. Il confesse un péché terrible qui peut le conduire à la damnation, mais qu'il ne dit pas. Et apparemment, ce n'est pas la mort de son fils. C'est un péché de chair, parce que c'est quelque chose qui revient en permanence, mais il ne dit pas quoi, on n'en sait pas plus.
Écrivain, il attire aussi les écrivains, les grands chroniqueurs de l'époque, dans cette cour qui était extrêmement brillante. On va voir Froissart, qui était le grand chroniqueur de l'époque, de l'époque de la guerre de Cent Ans, également Guillaume de Machaut, et on sent bien, on a l'impression qu'au fond, c'est par eux qu'il a voulu construire de son vivant sa légende. Vous le dites, Claudine Payès. Hein. C'est un homme qui était très attaché à ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui sa communication.
Voilà, alors c'est peut-être la partie que j'ai le plus développée dans cet ouvrage. Je pense en effet que Gaston Phoebus a construit une légende de son vivant, ce qui est quand même assez rare. En principe, les légendes viennent après la mort. Alors, il y a déjà ce surnom qu'il s'est donné lui-même. Hein, généralement, les Philippe Lebel, Charles Lebon, etc. C'est des surnoms qu'on a donnés après coup. Là, il s'est donné lui-même un surnom, et le surnom d'un dieu. Et puis, alors, d'un dieu, déjà, c'est pas mal. Et puis, alors, en plus, du plus grand des dieux, du plus brillant, c'est le nom grec d'Apollon.
Phébus, le dieu du soleil. Au fond, c'était une espèce de Louis XIV, trois siècles avant Louis XIV. C'était, vous l'appelez le comte soleil, Gaston Phébus.
On peut dire ça, voilà. Oui. Et ensuite, on sent qu'il... Alors, il a eu plusieurs chroniqueurs. Il y en a un qu'il a dû, dont il a dû susciter les services, Honoré Beauvais, le premier, dans sa jeunesse. Et puis ensuite, des chroniqueurs comme Froissart, donc, qui sont venus à sa cour. Et on sent que dans les récits que ces chroniqueurs font de sa vie, il y a sa main qui se dessine. Pour les premiers, c'est une légende lumineuse, une légende sainte, on peut dire. Alors, on raconte, par exemple, que la veille de la bataille de Launac, Saint-Volusien, c'est le patron de la ville de Foix, la ville comtale, Saint-Volusien lui est apparu tout en blanc pour lui annoncer sa victoire. Et cela, il va l'instrumentaliser toute sa vie. Et toute sa vie, on va faire une messe à l'honneur de Saint-Volusien, le jour anniversaire de la bataille de Launac. Enfin, ça, c'est la légende chrétienne, on peut dire, et lumineuse. Et puis, à la fin de sa vie, il y a une autre légende, une légende noire. C'est Froissart qui va la rapporter. Or, Froissart est louangeur envers Phébus. Il a été fasciné. Et donc, s'il raconte des histoires terribles, des histoires de colère, des histoires de meurtre, on peut, pour un... Venant d'un personnage qu'il a fasciné, on peut penser que c'est ce personnage-là qui lui a un peu dicté.
Mais quel était l'intérêt que, pourquoi Phébus tenterait de véhiculer de lui une légende noire, un amour pour la sorcellerie, par exemple? À quoi ça correspond?
Il a laissé dire, en effet, qu'il usait de sorcellerie. Je pense que ça correspond à une envie de fasciner les gens, ce à quoi il est arrivé, en tout cas. Parce que s'il a survécu dans la mémoire, c'est aussi pour cet aspect noir. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il avait une grande cour, c'était un prince fastueux, mais tout le monde sait aussi qu'il a tué son fils. Enfin, et les deux s'entrelacent pour en faire un personnage vraiment fascinant. Et je pense que lui le savait.
Il travaillait pour la postérité, quitte à véhiculer de lui une légende noire. Et pourtant, bon, son grand rêve pyrénéen a échoué. Est-ce qu'il est encore très présent dans la mémoire, notamment de cette région où vous êtes professeur, d'où vous venez? On a entendu votre accent, Claudine Payès.
Oui, il est très présent dans les Pyrénées, bien sûr. C'est le personnage historique des Pyrénées le plus connu localement. Il y a ses châteaux, il y a des fêtes de Gaston Phébus. Les images du livre de chasse sont
très belles. Ça illustre d'ailleurs le début de votre livre.
Elles sont très connues dans l'iconographie pyrénéenne. Oui.
Gaston Phébus, le prince et le diable, c'est le titre de votre livre, Claudine Payès, qui a été publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film Gaston Phébus de Bernard Borderie avec Jean-Claude Drouot dans le rôle titre, une série de 6 épisodes déjà diffusés il y a longtemps mais qui sont disponibles en DVD aux éditions Warner Vision France. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aveline Carmois et Renan Mahé, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, on reste au Moyen-Âge, mais aussi dans l'actualité, la vérité sur Jeanne d'Arc.